figure très particulière, personnage à première vue solitaire, comme égaré dans la politique, Édouard Balladur m'a paru toujours fréquenter des ailleurs. C'était en 1979.
Édouard Balladur, vous avez été l'un des collaborateurs les plus proches de Georges Pompidou. Vous avez vécu la grande aventure de mai 68. Vous avez été au pouvoir et même dans le secret des décisions les plus graves. Puis un jour, vous êtes parti et puis un peu plus tard, beaucoup plus tard, vous avez écrit. Alors on peut se demander pourquoi vous avez tenu un si long silence.
Parce que je crois qu'il fallait qu'il y ait une certaine distance entre le moment où...
11 ans, c'est beaucoup.
Pas tellement. Et puis de toute façon, après 1968, j'ai passé 5 ans encore auprès de Georges Pompidou, 6 ans même, pendant lesquels il n'était pas question d'écrire. Et puis il faut voir les choses avec un peu de recul. Je crois qu'on les décrit, on les comprend d'abord mieux soi-même.
Alors il y a ce goût de la discrétion que vous avez, qui vous est personnel, mais je pense que la discrétion ne plaît pas toujours au peuple. Le peuple a besoin de savoir, d'être tenu au courant, et tout cela est valable, même pour les temps actuels. Avez-vous cette même impression ?
Oui, certainement, mais je dirais que toutes les fonctions requièrent un peu de discrétion. Les fonctions publiques en requièrent, bien entendu, mais d'autres fonctions, on ne peut jamais tout dire, on ne peut jamais dire tout ce que l'on sait. C'est vrai des hommes publics, c'est vrai aussi des journalistes. N'évoquons pas des problèmes d'autocensure, comme on le dit. À mon avis, c'est un problème de conscience morale.
De délicatesse personnelle.
Par exemple, tenez les comptes rendus de procès. J'ai toujours été frappé de voir que la presse anglo-saxonne fait des comptes rendus très détaillés de certains types de procès. Et que la presse française, fort heureusement, les fait beaucoup moins détaillés. Je crois que c'est la presse française qui a raison, parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire.
Êtes-vous content, Édouard Balladur, de votre itinéraire ? Vous êtes maître des requêtes au Conseil d'État. Je le disais, vous avez été collaborateur proche de Georges Pompidou. Et puis, vous êtes ancienne l'ENA. Je veux dire que c'est une école qui a fait beaucoup de petits, quand même.
Oui.
Qui ont grandi, d'ailleurs.
Oui, quelques-uns, oui. Mais pourquoi content de mon itinéraire ?
Non, mais est-ce ce que vous souhaitiez ? Parce que lorsqu'on est élève de l'École nationale d'administration, j'imagine qu'on a une idée de carrière. Et vous avez eu quand même beaucoup de chance d'être au foyer des événements près de Pompidou.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance, mais je vais vous dire que si j'ai choisi la carrière que j'ai choisie, c'est-à-dire d'entrer au Conseil d'État, c'était dans une certaine mesure avec le désir d'être débarrassé du souci d'une carrière. Le Conseil d'État est un endroit où l'on pratique beaucoup l'indépendance et où l'on n'est pas forcément uniquement motivé par des idées de carrière. Et puis le hasard a fait que, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, je suis rentré au cabinet de Georges Pompidou sans le connaître d'ailleurs. Et puis les choses ont été ainsi faites que je suis resté auprès de lui plus de 10 ans et que j'étais à la fin secrétaire général de l'Élysée. Mais ce n'était pas par une idée de carrière à proprement parler. Du moins, je ne le crois pas.
Ouais, mais enfin, quel mot peut-on employer alors ? Parce que quand même, c'était dessiné tout cela.
Non, pas du tout. Absolument pas.
Alors, quels étaient vos souhaits ?
Quand j'ai débuté dans l'existence.
Oui, parce que vous avez quand même fait l'école. L'école forme, peut-être certains anciens élèves n'arrivent pas là où vous êtes allé.
Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je voulais être diplomate, figurez-vous. C'est pour ça que j'avais choisi de faire l'ENA. Et puis, à l'époque, il fallait entrer dans un certain rang au concours d'entrée, rang que je n'ai pas obtenu. Et ce qui a fait que je n'ai donc pas été affecté à la section diplomatique, mais que fort heureusement, mon rang au concours de sortie a été tel que j'ai pu choisir le Conseil d'État. Voilà, c'est vraiment le hasard, comme vous voyez.
Je voudrais savoir comment il se fait que vous êtes né en Turquie. C'est le hasard des voyages ?
Oui.
Le hasard de la profession de votre père ?
Oui.
Que faisait votre père ?
Mon père était dans une banque.
Mais vous en avez gardé un goût du voyage ? Vous avez vécu longtemps dans ce pays ?
Non, très peu de temps. Très peu de temps, j'en ai gardé pratiquement pas de souvenirs.
Je dois dire que vous connaissez bien cette maison, puisque vous avez été d'abord conseiller du directeur général à une certaine époque, de l'ORTF, et qu'ensuite vous avez appartenu au conseil d'administration de cette maison.
Oui.
Alors aujourd'hui, vous devez regarder la télévision, vous devez écouter la radio, et peut-être n'êtes-vous pas tout à fait satisfait de ce que nous faisons ?
Oh, écoutez, on ne peut pas l'être intégralement. Je ne peux pas vous dire que je suis satisfait à 100% de ce que vous faites, que ce soit à la radio ou à la télévision, bien entendu. Pas plus d'ailleurs à la radio, je ne sais pas s'il faut dire nationale. qu'aux radios périphériques. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile, de faire de bons programmes. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors le problème est de savoir si on y arrive mieux aujourd'hui qu'auparavant. Je crois pour ma part qu'une certaine autonomie des programmateurs, je préfère parler de programmateurs que de chaînes de radio ou de télévision, qu'une certaine autonomie des uns par rapport aux autres est plutôt une bonne chose. Au total, et que mieux vaut ne pas avoir des programmes trop centralisés.
Alors aujourd'hui, Édouard Balladur, vous êtes chargé de couronne, vous êtes président directeur général de la Compagnie Générale d'Électronique, vous êtes également, je crois, président du tunnel du Mont-Blanc, vous êtes enfin en poste dans beaucoup de domaines, mais je crois pouvoir dire que, pardonnez-moi si je le dis aussi clairement, que vous vous ennuyez par rapport à ce que vous avez fait.
Ah, écoutez, je ne crois pas. Il faut un temps pour tout. Il y a des cycles dans l'existence. Il ne faut pas faire toujours la même chose. Et d'ailleurs, les choses ne peuvent pas durer éternellement.
Mais ça n'est quand même pas la même foi, le même enthousiasme.
C'est autre chose.
Vous êtes plus en risque, là.
Comme ah.
Il n'y a plus. Quel est le danger de votre vie aujourd'hui?
De ne pas réussir. Vous savez, c'est une compétition, la vie économique ou la vie industrielle est une compétition qui n'est pas très commode. Et il faut prendre les moyens pour la réussir. C'est difficile aussi. C'est d'autres choses.
Aujourd'hui, comment regardez-vous mai 68? Ce fut une grande époque parce que vous l'avez vécue, cette époque. Elle a été bleue, elle a été rose, elle a été noire. Elle se situe dans les années 66-74 pour vous. Et vous le rappeliez, vous avez été au dernier moment secrétaire général de la présidence de la République, ce qui n'est déjà pas si mal. Vous avez eu un homme qui était vraiment un grand politique, il a été Premier ministre, il a été Président de la République, il s'appelle Georges Pompidou, et vous devez quand même vivre peut-être avec un peu de nostalgie.
Je crois que je vous ai déjà répondu. Bien entendu, ça a été une période très importante dans mon existence, et une période très, très riche en intérêts. Mais enfin, je le répète, il ne faut pas regarder vers le passé, il y a un temps pour tout.
Mais à quel moment avez-vous décidé de dire ce que vous aviez sur le cœur et de raconter ce qui s'était passé? Bon, il y a maintenant ce témoignage que l'on attendait. Parce que c'est vrai que nombreux sont ceux qui ont parlé de mai 68. Mais vous étiez quand même au cœur des affaires. Alors aujourd'hui, vous venez avec ce titre « L'arbre de mai ». D'abord, c'est un très beau titre. On va croire tout de suite qu'il s'agit d'un recueil de poésie.
Et une fois qu'on a lu le livre,
on s'aperçoit à ce moment-là que ce sont des événements quand même, et datés même, oui. Presque jour le jour.
Pourquoi même... l'arbre de mai? Parce que l'arbre, c'est un peu le symbole, n'est-ce pas, de toute cette époque, à mes yeux du moins. C'est que l'arbre, c'est un symbole de vie, de renouveau, de force aussi. Et c'est la question qu'on peut se poser à propos de ces événements, à savoir est-ce qu'ils ont été féconds ou est-ce qu'ils ne l'ont pas été? Ou ont-ils été stériles?
La réponse.
Écoutez, je ne peux pas faire de réponse simple. Je vous dirais que sur le moment, j'ai été assez tenté de les trouver un peu, je dirais, un peu artificiels. Et sans doute me trompais-je, parce que je crois que les choses ne peuvent pas et ne sont pas différentes, et ne peuvent pas être les mêmes, plutôt, après ces événements. Et que même si l'on trouve qu'un certain nombre de thèmes ou de slogans de mai ont quelque chose de puéril ou d'anachronique, je dirais de facilement anarchiste, du type « la parole doit prendre le pouvoir ».
Il est interdit d'interdire.
Oui, il est interdit d'interdire ce que chacun sait que c'est impossible et qu'il en est bien obligé d'interdire. C'est vrai de la famille à la société et à l'État. Même si tout ça paraît un peu simple, dirais-je, un peu simpliste, il en est résulté quand même un ébranlement très, très profond des sensibilités. Et rien n'est pareil depuis. Et si j'avais à me faire un reproche, je me dirais que j'ai peut-être eu tort de ne pas les prendre suffisamment au sérieux.
C'est un aveu, ça.
Un aveu, si vous voulez. Mais il me semblait que c'était tellement irrationnel que ça ne pouvait pas durer. Or, je crois qu'il faut bien comprendre, et on a des témoignages récents en Iran, tenez par exemple. Enfin, la France n'est pas l'Iran, tout de même. Ce n'est pas la même société, le même type de société.
Mais si vous parlez de l'Iran et d'Edouard Balladur, c'est que vous pensez peut-être que mai 68 aurait pu se transformer d'une manière dangereuse.
Aurait pu, pas comme l'affaire iranienne, bien entendu, mais aurait pu se transformer de manière dangereuse. Autrement dit, l'on ne doit jamais, je crois, s'imaginer que ce qui n'est pas rationnel ne doit pas arriver. Au départ, je pense que toutes les révoltes paraissent irrationnelles. Il était absurde, en 1789... d'imaginer de jeter par terre toute cette société française qui durait depuis 10 siècles. Et puis elle a été jetée par terre, par la passion. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre à propos de ces événements, ne pas les juger d'un point de vue rationnel. Ça a été une sorte de bouffée de passion.
Une explosion.
Oui.
Mais que l'on pouvait prévoir. Vous n'aviez pas un minimum de signes qui étaient des signes d'alerte ?
Écoutez, il y en a eu quelques-uns, mais personne n'a imaginé que ça pourrait prendre cette tournure. Il y a eu quelques, dans l'hiver 67-68, une série de grèves qu'on appelle sauvages, parce que les syndicats ne les avaient pas déclenchées, et qui étaient souvent déclenchées par des gens jeunes qui n'avaient pas trouvé dans les entreprises ce dont ils avaient rêvé lorsqu'ils avaient fait leurs études, n'est-ce pas ? Et ces grèves étaient très mal maîtrisées. Et ça inquiétait les syndicats, notamment, beaucoup. Alors, c'était un état d'esprit qui semblait nouveau, mais de là, imaginez ce qui s'était passé. Je ne connais personne qui ait prévu ces événements, et je connais même personne qui, après coup, se soit vanté de les avoir prévus.
Enfin, c'est une formidable mise en scène. Hein. Il y a une poignée de départ, une poignée d'étudiants au départ. Il y a une université qui est presque totalement ignorée. À ce moment-là, c'est Nanterre. Il y a une date, c'est mai 68, mais on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Et puis, c'est tout de même un grand mouvement, un formidable affrontement. Et j'imagine qu'à la place où vous étiez, vous avez eu peur, non ?
Non, franchement.
Le gouvernement n'a pas eu peur ?
Écoutez, je ne crois pas. En tout cas, je crois que le Premier ministre n'a pas eu peur. Les choses pouvaient mal tourner. Elles auraient pu mal tourner, notamment le 13 mai, c'est certain. Parce que ce qui a caractérisé ces événements, si vous voulez qu'on les résume en deux mots,
oui,
c'est qu'il y a eu un mouvement d'insatisfaction et de révolte étudiante qui a conduit à des violences et qui a conduit à un phénomène de solidarité d'une grande partie de la population avec les étudiants. Et c'est là qu'il y a eu une période très dangereuse pour le gouvernement, et je dirais pour l'équilibre de la France. Et tout l'effort de Georges Pompidou, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, a été d'essayer que chacun se reprenne et que cette union de la population autour des étudiants, union qui était un petit peu, je dirais, un peu passionnelle, un peu émotive et sentimentale, qui était un peu la conséquence de la première nuit des barricades, celle du 11 mai, que cette union se dissolve. Je crois que c'est ça ce qui caractérise mai 1968, c'est le mouvement d'un peuple qui s'insurge moralement, en tout cas, qui ne se reconnaît plus dans ses pouvoirs, dans son gouvernement, dans son État, et puis cela dure 15 jours, 3 semaines, et puis il se reprend. Et pourquoi est-ce qu'il se reprend ? Eh bien parce que je crois que la société française n'était pas faite, n'était pas prête pour un grand bouleversement. Elle était prête, comme elle l'est toujours d'ailleurs, pour des modifications, des réformes, des changements, mais pas pour un grand bouleversement.
Mais vous, à un certain moment, Édouard Balladur, vous avez été sensible à ce que faisaient les étudiants, vous avez partagé un peu leur passion, leur enthousiasme, ou vous étiez totalement à votre place du côté de l'État ?
Ah, écoutez, j'étais tout à fait à ma place, je l'espère du moins, du côté de l'État, et je ne pensais pas à faire autre chose que ce qui était mon...
Non, mais au fond de votre cœur, vous pouviez comprendre.
Dire... Ah oui, tout à fait. Je dois dire qu'un certain nombre de ces slogans, aussi rationnels qu'ils aient été, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, ne pouvaient pas manquer d'émouvoir, dans la mesure où justement ils contiennent une part d'irréalisme et donc de rêve, et qu'à un certain moment, que tout le monde... de temps à autre et tenter de s'évader un peu dans le rêve et d'y chercher la consolation de la réalité. C'est ce que font fréquemment les gens jeunes. L'originalité de mai 68, c'est que les adultes se sont mis à le faire aussi. Et c'est ce qui a fait toute le côté dangereux de la situation pour le gouvernement.
Après la mort de Georges Pompidou, vous avez quitté les affaires, vous avez quitté la scène politique avec une discrétion exemplaire. Je me suis toujours demandé si c'était parce que vous aviez peur d'en dire trop. Parce que lorsqu'on est quand même
vous savez, je me contrôle très bien. J'étais
sûr que
je n'en dirais pas trop si je ne voulais pas.
Cela fait partie de votre nature.
Oui, non, je n'en dirais pas trop, je vous assure.
Oui, mais quand même, lorsqu'on écrit un livre comme celui-là, d'ailleurs, on essaie de reconnaître certains personnages.
Oui.
Vous ne pensez pas que lorsque... on porte témoignage sur des événements aussi importants, il faut aller jusqu'à dire les noms ?
Non, ça n'a aucune importance. Je dirais par là, j'ai donné un certain nombre de noms, de ceux qui étaient les principaux responsables et de ceux avec qui j'ai travaillé, n'est-ce pas ? Mais pour le reste, ce que j'ai voulu faire, c'est... j'ai essayé de décrire ce que pouvait être les conditions de l'exercice du pouvoir dans une période aussi dramatique et troublée que l'était celle-là. Et je n'avais pas besoin pour... J'ai essayé de décrire les réactions de ce que pouvaient être les attitudes, les réactions, les mouvements d'opinion, même à l'intérieur d'un cercle restreint comme le sont les milieux du gouvernement. Mais je n'avais pas besoin pour cela de donner des noms. Ça n'aurait rien ajouté, d'ailleurs.
Vous aviez pris des notes. Comment avez-vous travaillé en revoyant la presse?
J'ai une bonne mémoire.
Oh, la mémoire ne suffit pas.
Bien entendu, pour la chronologie des événements, j'ai utilisé un livre que je trouve excellent, qui a été écrit 2 ans après les événements, qui est une histoire, à mon avis, très complète et objective et intelligente de ces événements, qui est un livre d'un historien de profession, c'est Adrien Dansett.
Oui.
Je crois qu'il n'est plus de ce monde maintenant. Et c'est un très bon livre, sur le plan de la chronologie des événements.
Alors, il y a quelque chose de paradoxal. Vous étiez au cœur vraiment de l'événement, et en fait, vous ne le contrôliez pas, puisque vous ne le voyez pas. Vous n'avez jamais vu ce qui se passait. Vous n'êtes jamais allé sur une barricade. Vous n'étiez pas au quartier latin.
Non.
Alors, on pouvait imaginer, oui, les images vous donnaient.
Il y avait les images, il y avait la radio, vous voyez, la télévision aussi. Je crois que je l'écris d'ailleurs. À certains moments, l'attitude de quelqu'un devant, ou la déclaration, le cri de quelqu'un devant un micro, vous en dit bien plus que tous les rapports qu'on peut recevoir sur ce que peut être l'état d'esprit des gens. Mais non, j'avais pas le temps, vous savez.
Alors on a dit
dans mon bureau.
On a dit qu'à ce moment-là, la radio a meuté un peu la population en exagérant. Je vous promets qu'on n'exagérait pas. C'était vraiment ce qui se passait. Les bruits étaient les bruits, les mots étaient les mots. Et la fureur était la fureur.
Oui, non, mais ça, je vous en donne acte bien volontiers.
Dans ces endroits-là.
Hein. Oui, je vous en donne acte bien volontiers. Mais alors là, on touche à un problème, n'est-ce pas, qui est tout à fait différent. C'est la diffusion de l'information en tant que telle.
Oui.
Est un facteur qui permet le regroupement de gens à travers Paris ou autre. Et en faisant leur métier comme ils doivent le faire, les journalistes, évidemment, pouvaient donner des informations, non seulement au gouvernement, mais les donner également à ceux qui étaient de l'autre côté.
Faut-il se taire en certains cas?
À quoi pensez-vous?
À tout. Vous pensez qu'on ne peut pas tout dire?
Ah, sûrement pas.
Mais où est la limite?
Mais personne ne dit tout, d'ailleurs.
Non, ça c'est vrai, parce qu'on personne a souvent accusé tout. La presse ces derniers temps, je vous promets qu'elle en dit un minimum. Si vraiment la presse devait dire tout ce qu'elle sait...
Ah, ça, écoutez, ne débordons pas sur le temps présent, si vous voulez bien. Mais pour rester dans cette
période...
Non,
je parle de tout sujet, d'ailleurs. Même sur le plan des faits divers.
Oui, bien sûr. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que non seulement on ne peut pas tout dire, mais je crois que, dans une certaine mesure, et dans certains cas, c'est un devoir de ne pas tout dire. Ça n'ajoute rien. Ça ne fait que satisfaire un besoin, finalement, assez malsain, une sorte de complexe d'Asmodée qui cherche à s'assouvir, et c'est souvent fondé sur un certain goût de détruire, de montrer le mauvais côté des choses. Si vous me posez la question par rapport à mon livre, j'ai dit ce qui me paraissait être l'essentiel pour que l'on comprenne, ou pour que je comprenne d'ailleurs moi-même ces événements. Tout le reste, je ne tenais pas à le dire.
Lorsque le président Pompidou a été attaqué de manière très personnelle, il en a beaucoup souffert?
Je le crois, oui.
Vous partagiez ces moments-là?
J'étais auprès de lui à ce moment-là.
Mais il vous en parlait?
Rarement, c'est un homme très pudique.
Parce que lorsqu'on est le proche collaborateur d'un président ou d'un premier ministre, on peut se demander si on reçoit dans le même temps les secrets. Enfin, des hommes comme ceux-là qui sont aux altitudes de l'État doivent avoir envie à certains moments de se confier, de se débarrasser d'un poids.
Oui, certainement.
Donc vous avez reçu des confidences et vous ne les direz jamais?
Écoutez, je ne me suis pas posé cette question à dire, disons que, que je ne les ai pas dites et que j'en éprouve ni le besoin ni que je n'en ressens la nécessité.
Par exemple, Georges Pompidou souhaitait-il un successeur appelé Valéry Giscard d'Estaing?
Écoutez, je n'en sais rien. Vraiment, il ne me l'a pas dit, en tout cas. Il ne m'a d'ailleurs pas dit qu'il en souhaitait un autre non plus.
C'est-à-dire que lorsqu'on est à la place que vous occupez, on se dit « il sait tout ». Et on envie, nous, à notre tour, de tout savoir.
Eh bien, écoutez, je vais vous dire, Jacques Chancel, on a tort. Car ce qui me frappe toujours, c'est que ce que l'on ne sait pas est finalement beaucoup plus important que ce que l'on sait. Et que souvent on s'imagine qu'il y a des gens qui savent tout, mais ce n'est pas vrai, ils ne savent pas tout du tout. Ils savent un certain nombre de choses, mais ils ne savent pas tout.
Alors, on parle de mai 68 parce que vous, vous êtes penché sur cet arbre-là. Et vous en parlez avec passion, mais jamais avec dérision, comme on le fait parfois à certains moments maintenant. Même ceux qui avaient fait 68 maintenant disent, mais on s'était peut-être trompé à cette époque-là. Oui, j'estimais que c'était important.
Oui, c'est à la mode de ricaner.
Oui, de ricaner. Parlant. On ne ricane pas d'événements comme ça.
Je crois que ce n'est pas une bonne réaction. D'abord, non. Je crois que lorsque toute une jeunesse, une partie de la jeunesse d'un pays est émue et est ébranlée à ce point-là, ça a une signification et qu'on ne résout pas le problème par la désinvolture ou par le rire a posteriori. Je crois que ça a une signification, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que ça manifestait une profonde insatisfaction d'être, un profond malaise dans la société telle qu'elle s'offrait, ou qu'elle s'offre encore d'ailleurs aux jeunes, car qui est une société assez compétitive, assez dure, où les cellules traditionnelles, la famille, ou la petite ville, ou le village, disparaissent et n'ont plus de force, et qu'il y a une sorte de phénomène d'angoisse devant ce monde dans lequel les gens qui sont jeunes ont à se faire leur place, et c'est pas plus facile d'ailleurs aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans. Simplement, disons que la prise de conscience en est venue il y a 10 ans. On a cru résoudre le problème par une insurrection violente et par la négation même de la société, par des thèmes anarchisants qu'on n'avait pas connus en France depuis la Commune de Paris, depuis un siècle finalement. Mais c'est un vrai problème. Alors, quelle est la solution? Ça, c'est une autre affaire. Mais je crois que on a pris, si vous voulez, je résumerai mon point de vue en disant que l'on a parlé peut-être trop sérieusement de mai 68 au moment même, et qu'on n'en parle plus assez sérieusement aujourd'hui.
C'est aujourd'hui qu'il faudrait vraiment faire le point?
Peut-être, aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire que le point, c'est le problème des rapports entre une société et les jeunes.
Parce qu'en mai 68, le gouvernement était en crise, le pays était hostile, c'est vrai, à ce régime, et puis tout d'un coup, l'opinion a basculé, comme quoi l'opinion fait vraiment l'événement. C'est l'opinion qui a changé les choses. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes tenté de faire des parallèles avec ce qui se passe, mais presque actuellement, parce que ce que vous dites de mai 68 ressemble aux élections de mars 78, et en allant un peu plus loin, peut-être sont-ce les mêmes ferments d'agitation, sans qu'il y ait un mai.
Oh non, 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 pas du tout, les élections de mars 78.
Non, je voudrais 78. Savoir.
Non, je vais vous dire, les élections de mars 78, c'est une échéance politique normale, qui s'est déroulée normalement. Pour un certain nombre de partis politiques, elle
mettait en cause... Je pense aux partis politiques,
hein. Oui, elle mettait en cause un changement de société important, qui attirait les uns et qui, au contraire, n'attirait pas du tout les autres. Ça n'a rien à voir avec les événements de mai 68, absolument rien. Dans lequel, je dirais que...
Il y avait un premier éclatement de la gauche, quand même.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire une des causes de la victoire du gouvernement. Mais je dirais qu'en mai 68, ce qui a été caractéristique à mes yeux, c'est que toutes les parties, les organisations, toutes les structures, je dirais, de la société se sont senties menacées ensemble, à juste titre d'ailleurs, puisque c'était un mouvement anarchiste. Et dans tous les domaines, que ce soit les responsables d'organisations religieuses, syndicales, économiques ou politiques, ça a été une contestation de toutes les structures, de toutes les organisations. C'est beaucoup plus fondamental que ce qui peut se passer à propos d'élections où il est question de savoir si, mon Dieu, on va dans tel sens sur le plan de l'économie ou dans tel autre, et qui ne remettent pas en cause aussi fondamentalement au sein de la société les problèmes de, j'irais, d'organisation sociale.
Aujourd'hui, par exemple, vous êtes pessimiste pour ce qui regarde le monde d'ailleurs. Plus pessimiste que lorsque vous étiez auprès de Georges Pompidou en 1974.
Ah, écoutez, l'ébranlement du monde a commencé dans la période 73-74. En effet, on l'a senti venir, n'est-ce pas? Il y a eu la crise du Moyen-Orient et la crise pétrolière. Et à partir de là, on a bien senti effectivement que nous entrions dans un monde très différent du monde de l'après-guerre, dans lequel l'Occident aurait la partie beaucoup moins facile qu'il ne l'avait eue jusque-là, et dans lequel les producteurs de matières premières, mieux organisés, seraient des interlocuteurs beaucoup plus exigeants. C'est ça le changement du monde depuis cette époque-là. Le monde est certainement plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans.
Mais vous portez le même intérêt aux affaires ? Je ne dis pas que vous êtes dans une retraite, puisque vous êtes encore en plein exercice de vos travaux.
Oui, oui, aux affaires publiques, vous voulez dire.
Aux affaires publiques.
Ah oui, certainement.
Oui, mais pas avec la même acuité, peut-être. Vous n'êtes plus un témoin privilégié.
Ah non, bien sûr.
Et ça vous manque ?
Non. Mais non. Je vous l'ai déjà dit.
Mais Édouard Balladur, oui, mais j'aimerais que vous me le répétiez parce que je n'y crois pas tellement.
Vous, oui, c'est ce que j'ai l'impression que j'ai.
Non,
oui,
mais je suis persuadé d'ailleurs
mais
que
comment dois-je
j'ai
le
presque
dire
raison.
Comment dois-je le dire pour que vous me croyiez ?
Ben, vous me l'avez dit. Édouard Balladur, était-ce important à vos yeux que l'on puisse se rebeller ? C'est important quand même que l'on puisse se révolter.
Oui.
Vous l'admettez, la révolte.
Tout à fait.
C'est un élément naturel. À 20 ans, vous étiez révolté ou pas ?
Ça dépend de ce qu'on appelle révolté, n'est-ce pas ? Révolté violemment, tout le problème est de savoir les conditions dans lesquelles on se révolte. Tous les gens jeunes sont révoltés, n'admettent pas le monde dans lequel ils entrent, ça n'a rien de nouveau. Et c'est dans ceci que, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, les slogans de mai éveillaient en chacun, dans les hommes de 40 ans comme dans les hommes de 20 ans, une résonance particulière. Mais on se révolte dans un cadre établi, où on se révolte intellectuellement... On cherche le refuge ou la solution dans la littérature ou dans la poésie ou dans le théâtre ou bref, dans des tas d'autres activités. Ce qui fait l'originalité de mai, c'est que la révolte est devenue une révolte violente.
Vous avez des enfants ?
Oui.
Ils avaient quel âge en mai 68 ?
Oh, ils étaient très jeunes. Je crois que l'aîné devait avoir une dizaine d'années.
Donc vous ne pouviez pas avoir de problème. Mais aujourd'hui, ils ont donc 20 ans.
Oui.
Il a donc 20 ans, votre fils aîné. Il vous parle de ces événements et comment vous en parle-t-il ?
Il a lu
votre livre, L'Arbre de Mai.
Il m'a dit qu'il l'avait lu, j'espère que c'est vrai.
Non, mais vous pouvez vérifier.
Oh non, je le lui ai offert et puis je le laisse libre
non,
de lire ou de ne pas lire.
Non, pas comme une vérification, mais vous pouvez parler de ces événements avec lui. C'est quand même le premier témoin que vous pouvez rencontrer pour en parler.
Ben, c'est pas un témoin, justement.
Si,
pour lui, c'est de l'histoire
ancienne. C'est un témoin, ben justement. Oui. Il la regarde, cette histoire,
oui.
On lui en a parlé.
C'est de l'histoire ancienne, vous savez, pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. C'est ça qui m'a
frappé.
Ah, je crois. C'est de l'histoire ancienne et je n'ai pas l'impression que leurs réactions soient les mêmes aujourd'hui que celles qu'elles pouvaient être il y a 10 ans. J'ai l'impression, pour ceux que je peux voir, n'est-ce pas, on ne peut pas généraliser, d'une génération qui est peut-être plus, je dirais, raisonnable, rationnelle, moins émotive peut-être, que ne l'était celle de mai 68, qui avait un côté plus effervescent et plus sensible. Parce que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Nous sommes chacun marqués par la nôtre. Moi, j'appartiens à la génération de l'après-guerre. On a été un petit peu, enfin un peu, même beaucoup influencés par tous les thèmes issus de la résistance, la libération, l'ONU, etc. N'est-ce pas ? C'était tout. On a cru à un certain nombre de la décolonisation. Peut-être appartenons-nous à la même génération, à quelque chose près. La génération qui a suivi, qui est celle qui a fait la guerre d'Algérie, par exemple, ne doit pas avoir les mêmes sentiments. Celle qui a fait mai 68 non plus, et puis celle d'aujourd'hui est encore différente.
Alors la génération d'aujourd'hui, c'est la génération qui appartient à quel événement ? Vous parlez de mai 68, vous parlez pour les autres de la guerre d'Algérie, pour les autres d'autres moments ?
Eh bien, elle appartient peut-être à la génération où la difficulté de trouver sa place dans la société est la plus grande. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi sérieuse, d'ailleurs. Rien n'est facile, n'est-ce pas, pour les gens qui sont jeunes aujourd'hui. On le sait, on le voit, on le constate, même dans les statistiques.
Et on ne peut rien y faire ?
Si, bien sûr, mais c'est que notre société dans son ensemble, et notre économie dans son ensemble, n'est-ce pas, on va faire face à des problèmes difficiles, et qu'à cet égard, la situation il y a 15 ans était plus aisée.
Donc il ne suffit pas de dire « il faut tout changer ».
Ah, sûrement pas, non.
C'est autre chose.
C'est autre chose. Et puis je pense que le malaise de la jeunesse dans la société dans laquelle elle arrive, quelle que soit cette société... quel que soit le pays, est une donnée permanente.
Édouard Balladur, tout à l'heure, je vous demandais s'il n'y avait pas eu en mai des signes avant-coureurs. Vous m'avez d'ailleurs dit qu'il y en avait eu en 77, puisqu'il y avait eu... 67, je veux dire, pardon. Il y avait eu des grèves sauvages. Mais quand même, si l'on considère, et je le revois, je le retrouve dans votre livre, si l'on considère cette journée, cette nuit plutôt du vendredi 10 mai 68, on s'aperçoit qu'il y eut insurrection. Ça n'est plus du tout la barricade, ce n'est plus du tout une colère, c'est vraiment l'insurrection. Et là, il n'y avait plus personne. Enfin, Georges Pompidou n'est pas là. Et on ne lui demande même pas de revenir. Donc personne n'y croit.
Oh, d'abord, il devait revenir, n'est-ce pas?
Il devait revenir le lendemain.
Il n'était pas là. Il était en Afghanistan, ce qui est fort loin.
Oui, bon, on revient vite, hein, surtout lorsqu'on est Premier ministre.
Bien sûr, mais enfin, il n'était pas là, on ne lui a pas demandé de revenir, c'est vrai, et à vrai dire, personne n'a imaginé, je pense, enfin, à 6 heures du soir le vendredi, qu'il y aurait une trentaine de barricades à démolir 6 heures plus tard, à partir de minuit. Et on ne lui a pas demandé de revenir.
Que pensait le général à ce moment-là?
Ben, je ne le sais pas. Écoutez, je ne l'ai pas vu.
Président Pompidou, enfin, vous en, qui était à ce moment-là, mais vous en parlait.
Que pensait-il de quoi?
De tous ces événements.
Le 11 mai ou plus tard?
Non, à ce moment-là, ce jour-là.
Le 11 mai.
Plus tard, on le sait, mais ce jour-là...
Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque Georges Pompidou est rentré et qu'il avait d'ailleurs dès son voyage en avion... rédigé son allocution dans laquelle il annonçait la réouverture de la Sorbonne, il est allé trouver le général.
C'était une capitulation, là, l'ouverture de la Sorbonne.
Non, pourquoi une capitulation? Je vais vous dire, je crois que c'était le seul moyen d'éviter des événements, alors pour le coup dramatique, le lundi 13 mai. N'oubliez pas que le 13 mai, il y a eu dans les rues de Paris 500 000 manifestants. Tout parti, tout syndicat confondu, sauf les partis de la majorité gouvernementale, bien sûr... et qu'il y avait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un phénomène de solidarité sentimentale de toute la population. Et que cette énorme manifestation, sans les gestes d'apaisement que Georges Pompidou a fait dès son arrivée et dès son retour, cette énorme manifestation aurait pu alors se terminer de façon tragique. Le 13 mai, d'abord, son ampleur a surpris tout le monde. Personne n'avait imaginé qu'il y aurait 500 000 personnes dans les rues de Paris. Alors, vous comprenez les mots de capitulation, tout ça, ça ne signifie rien. Georges Pompidou est rentré, il y avait un problème à régler. Le problème à régler était très simple, c'est qu'il y aurait dans Paris, deux jours après, une énorme manifestation, une grève générale dans tout le pays, grève générale qui d'ailleurs a été un demi-succès le lundi 13 mai, et une population qui avait basculé du côté des révoltés, moralement et sentimentalement. Il fallait résoudre ce problème et montrer que le gouvernement était prêt à des gestes d'apaisement. Alors, la réouverture de la Sorbonne, qu'il a décidé aussitôt en accord avec le général qui lui a donné son accord, était ce geste d'apaisement. Alors, après coup, on peut dire que, je sais bien qu'on le dit parfois, que c'était une capitulation, que c'était une erreur. Je crois que c'est tout à fait inexact, car c'est ce jour-là que l'on a évité que le 13 mai... ne prennent un tour dramatique.
Édouard Balladur, on peut dire que le gouvernement n'a pas gagné, il a été sauvé par la rupture entre les gauchistes et les communistes. S'il n'y avait pas eu rupture, il y avait vraiment plus grand affrontement.
Quand ça, le 13 mai ou plus tard?
Plus tard.
Plus tard.
La victoire n'est pas une victoire, c'est la défaite des autres.
Bien entendu, mais justement, donc il a gagné.
Oui, mais enfin...
Puisque la victoire est une défaite des autres. Il a gagné.
Car s'il y avait eu, comme au départ, cette fois, ce romantisme, cet accord...
Non, mais c'est pourquoi toute la tactique de Georges Pompidou était de rompre cette solidarité et de dissiper cette sorte d'émotivité qui jouait en faveur des révoltés. Et on ne pouvait le faire qu'en donnant l'image d'un gouvernement... généreux et humain.
Mais à quel moment exact le Pompidou a-t-il eu l'impression d'avoir gagné? Il y a eu la petite minute, la petite heure, je ne sais pas laquelle. Là, nous sortons du tunnel.
Écoutez, il n'y a pas un moment exact. Je peux vous en donner deux ou trois. Je crois que lorsqu'il y a eu la seconde nuit des barricades, vous savez, le 24 mai, et que l'on a réussi à rétablir l'ordre dans les rues assez vite, l'on a senti à ce moment-là déjà que l'opinion basculait. Je crois en deuxième lieu que lorsqu'il y a eu toutes ces négociations avec les syndicats rue de Grenelle et que l'on est arrivé à quelque chose qui était quand même un accord avec eux, il a eu le sentiment que il allait l'emporter cette fois. Et c'est pourquoi le fait que cet accord n'ait pas été ensuite avalisé dans les grandes entreprises a été une déception pour lui et pour les syndicats d'ailleurs. Je crois que ça a été deux moments. Alors ensuite, il y a eu une période de deux ou trois jours qui a été une période beaucoup plus difficile, parce que c'est vraiment la période où l'anarchie et la désorganisation ont atteint leur point extrême, n'est-ce pas? Où plus personne ne commandait plus rien. C'était vrai aussi des syndicats, des partis, de tout le monde, n'est-ce pas?
Alors pour un gouvernement, c'est le commencement de la victoire.
Ah, c'est pas si vous voulez, si vous voulez. Sauf quand il est lui aussi, lorsqu'il y a très peu de moyens d'action entre les mains, n'est-ce pas?
Mais lorsqu'on dit aujourd'hui, on le dit parfois, mai 68, c'est de la vieille histoire, on a tort. Parce que c'est l'histoire qui règle le présent.
L'histoire est toujours vieille. L'histoire est toujours vieille.
Oui, mais c'est un fait important. Il ne faut pas le minimiser. On écrira beaucoup encore, d'ailleurs.
Je ne sais pas.
Bon, je voudrais savoir, Édouard Balladur, comment vous regardez les hommes politiques, parce que certains sont encore totalement en exercice. Par exemple, à ce moment-là, François Mitterrand était prêt à assumer le pouvoir. Et vous le dites, Mendès France pensait prendre la relève. Le Parti communiste n'était pas d'accord. Enfin, ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes idées qui passent, ce sont les mêmes manières de réagir.
Dans les états-majors politiques,
oui,
dans les partis politiques.
Vous regardez tout cela un peu en spectateur maintenant.
Écoutez, je crois, alors là, je reviens à ce que nous disions ensemble tout à l'heure, je crois que les idées de mai 68 ont quand même fait le chemin et que le discours des hommes n'est plus tout à fait le même.
Vraiment?
Il me semble.
Donc la politique a un peu changé?
Je ne sais pas si la politique a un peu changé, mais je crois que la prise en compte de certains besoins de nature plus morale, peut-être, qui tiennent plus à la qualité esthétique, au mode de vie. C'est un des héritages, je crois, de mai 68. Ça serait peut-être venu quand même, d'ailleurs, de toutes les manières. Mais le propre des mouvements violents, c'est peut-être pas toujours de faire naître les idées nouvelles, mais en tout cas d'en accélérer l'éclosion. Donc les choses ne sont quand même pas tout à fait les mêmes, me semble-t-il. Mais lorsque je constate, par exemple, le désir du Parti communiste à l'époque... d'éviter que les événements ne prennent un tour trop favorable, soit pour les gauchistes, soit pour les socialistes de l'époque, il y a une certaine permanence des tendances, n'est-ce pas, et des réactions. Mais ça, je dirais que c'est de la tactique politique, ça ne vise pas l'expression des idées générales.
Mais Édouard Balladur, vous avez appartenu ou vous appartenez à un parti politique?
Non, jamais.
Vous n'appartiendrez jamais?
Je ne crois pas, non.
Pourquoi il ne faut pas?
Comment?
Il ne faut pas?
Ah, écoutez, si, il le faut. Il faut qu'il y ait des gens...
Non, à votre poste.
Ah, non, pas du tout. Pour moi, ça n'est nullement une impossibilité, ni auparavant, ni aujourd'hui, ni demain. Mais il faut qu'il y ait des gens dans les partis politiques, bien entendu.
Enfin, vous ajoutez un témoignage sur cette époque à beaucoup d'autres témoignages. Vous pensez qu'un jour, on saura vraiment tout? Par exemple, moi, avec ma curiosité, j'aimerais savoir ce qui s'est passé entre le général de Gaulle et le général Massu. Ce sont des choses que l'on apprendra un jour?
Je ne sais pas.
Non, mais quelqu'un, le général Massu, dit qu'il... ou a dit plutôt, qu'il réserverait ces nouvelles. Comment pourrait-on savoir?
Je l'ai lu comme vous, effectivement. J'ai vu une de ses déclarations... Enfin, une déclaration qu'on lui prêtait. Je ne sais pas s'il l'a tenue. Eh bien, attendons de voir, n'est-ce pas?
Je voudrais savoir quand même comment vous jugez la politique politicienne. Vous n'avez jamais tellement aimé cela. Et je me demande si aujourd'hui vous pouvez dire qu'un pays est en crise comme on pouvait le dire à ce moment-là. C'est pour ça tout à l'heure que j'établissais ce parallèle entre cette époque-là, qui n'a rien à voir avec celle-ci, mais celle-ci en est quand même le prolongement.
Oui. Mais quelle question me posez-vous?
Oui, alors, comment jugez-vous la crise aujourd'hui?
La crise économique?
La crise économique et la crise du gouvernement. Regardez tout ce que l'on dit, il suffit. Alors ça n'est un secret pour personne. C'est presque l'insulte à tous les étages.
Oui, enfin, il y a des périodes, vous savez, pour ça.
Ah ben, la période dure depuis un moment, quand même.
Il y a des périodes. Moi, je vous dirais que la situation actuelle, je la juge de la façon suivante. Bon, nous traversons une période difficile sur le plan économique. C'est évident. C'est d'ailleurs une banalité que de le dire. Période difficile qui a commencé, il y a déjà dans la période 73-74, et dont on ne peut pas apercevoir que nous sortions rapidement. C'est d'ailleurs pas une situation originale, les autres pays la traversent comme nous. Alors, sur le plan de la politique, puisque vous souhaitez que je m'exprime sur ce sujet...
Ah oui,
je vous dirais que ce qui se passe actuellement manifeste la solidité du système institutionnel français. C'est-à-dire qu'il y a l'expression de mécontentement ou d'approbation, l'expression d'accord ou de désaccord, que tout ça se manifeste librement, grâce au ciel, au Parlement ou dans la presse, mais que le système institutionnel dont nous sommes redevables au général de Gaulle permet tout de même à la France d'avoir un régime stable. Et ça, je crois que c'est une chose importante. Quelques jugements que l'on porte par ailleurs sur ce que fait ou ce que ne fait pas, ou ce que devrait faire, ou ce que le gouvernement, ou ce que quelqu'un d'autre ferait ou ne ferait pas à sa place, je ne me prononce pas là-dessus du tout. Je crois que c'est le système qu'il faut juger, et je crois que ce système fait la preuve quand même de sa solidité. Imaginez que nous traversions une crise aussi sérieuse que la crise, que les difficultés que nous rencontrons, avec le système institutionnel de la 4e République, et imaginez ce qui se serait passé.
Mais le collaborateur de Georges Pompidou est-il, que vous êtes, est-il giscardien ?
Oh, écoutez, je ne veux pas répondre à une question de cet ordre-là.
Elle est précise.
Si vous me posez une question sur mes convictions politiques, puisque vous m'interrogez là-dessus, je vous dirais que pour l'essentiel, je me considère comme étant gaulliste. J'observe d'ailleurs qu'il y a des gaullistes au sein du gouvernement et des gaullistes en dehors du gouvernement. Il y a des gaullistes qui soutiennent ce gouvernement, il y a des gaullistes qui le critiquent. Je ne veux pas du tout me prononcer sur ce type de choses, mais pour ce qui est de mes convictions politiques, je me considère comme étant gaulliste. C'est-à-dire, je vais vous dire ce que je considère, ce qui est pour moi le gaullisme.
Oui, la signification du gaullisme.
Oui, c'est d'abord quand même l'admiration et la fidélité à la mémoire d'un homme qui nous a sauvés de l'humiliation. Il faut quand même se souvenir de ce que c'était que mes 40, moi j'étais un enfant, ça a été une chose abominable. Et c'est à cet homme que nous devons de l'avoir surmonté. Et puis c'est en deuxième lieu un homme qui a doté la France, je le disais à l'instant, d'un système institutionnel qui fait la preuve de sa solidité. Et ça, dans un pays tel que le nôtre, qui a tellement souffert de la fragilité des institutions, c'est tout à fait capital. Et puis, il y a une fidélité parce que De Gaulle était un homme d'exception et qu'il a fait vivre à la France par ses attitudes, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de réagir, des moments, je dirais, d'une qualité esthétique exceptionnelle. Et pour toutes ces raisons...
Vous êtes donc gaulliste. Mais oui. Que fait-on du gaullisme aussi aujourd'hui, parfois ? On le détourne d'une vérité. Non, vous ne le pensez pas ?
Mais qui le détourne ?
Je ne sais pas, vraiment, au nom du général de Gaulle, on dit beaucoup de choses. Aurait-il aimé ? Aurait-il aimé se reconnaître dans ceux qui...
Écoutez, ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je vous répondrai simplement, si vous me le permettez, par une citation du président Pompidou, ouais. Auquel on avait déjà, à l'époque, l'habitude d'opposer ce qu'aurait fait à sa place le général de Gaulle, et qui répondait que... il avait été plus longtemps que quiconque le collaborateur le plus proche du général de Gaulle, auprès de lui puis comme Premier ministre, mais qu'il, il s'interdisait à lui-même de se référer tout le temps à lui pour avoir l'air de dire que systématiquement ce qu'il fait, le général l'aurait approuvé, mais que corrélativement il interdisait à d'autres de prétendre que ce qu'il faisait, le général l'aurait désapprouvé. Je crois qu'il faut garder le souvenir des grands hommes comme une référence. Ça fait partie du capital moral d'un pays et d'une nation. Mais la vie évolue. Le gaullisme, c'était d'ailleurs essentiellement, d'une certaine manière, un pragmatisme. Le général n'hésitait pas à évoluer lui-même en fonction des circonstances. Il ne faut pas sans cesse répéter un catéchisme comme si le monde s'était arrêté de tourner en 1969 lorsque le général a quitté le pouvoir, n'est-ce pas ? Imaginez, je le dis parce que par exemple on a fait grief au président Pompidou d'avoir fait, c'est un sujet actuel, d'avoir fait entrer l'Angleterre dans le marché commun. Imaginez que le général ne se soit pas représenté aux élections en 1965, nous aurait-on dit, alors qu'il a fait sortir la France de l'OTAN en 66, je crois, nous aurait-on dit que l'un des points fondamentaux du dogme qu'il avait laissé comme héritage à la France était que la France fasse partie de l'OTAN, c'est pas... Je crois qu'il ne faut pas faire, il faut pas avoir d'attitude de catéchiste dans ce genre d'affaires. Il faut demeurer fidèle à un certain état d'esprit, qui pour l'essentiel est un état d'esprit d'indépendance et d'intransigeance quand il le faut. C'est ça, au fond, l'attitude morale gaulliste. Et pour le reste, eh bien, il faut agir en fonction des circonstances.
Vous êtes gaulliste, mais vous n'appartenez pas au RPR.
Non.
Alors nous parlons du général.
Mais parce que je n'appartiens à aucun parti. Je ne voyais pas dans ma réponse une critique ou une Pas du tout.
Nous avons parlé du général de Gaulle, mais il y a aussi Madame de Gaulle qui nous a quittés. Je voudrais savoir s'il est vrai qu'en mai 68, elle a dit à un certain moment « Mais que font donc les parents ?» C'est vrai ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est vrai. Je l'ai lu la semaine dernière dans un hebdomadaire. Je trouve cette phrase merveilleuse, n'est-ce pas ? Car elle symbolise et vraiment, enfin, une des explications de cette affaire. Que font donc les parents ?
Et que même font donc les parents ? C'est une phrase que vous prononciez vous-même ?
Ah non, non, j'y avais pas pensé, mais je regrette de ne pas l'avoir dit, parce que c'est une phrase que je trouve excellente.
Elle est excellente, mais les parents sont-ils concernés dans ces cas-là ? Ils n'ont pas, lorsque les enfants ont 18, 20, 22 ans, 25 ans...
Oh, 25 ans,
les parents n'ont plus tellement d'autorité.
Oui, 25 ans, c'est un peu difficile.
Ah bah, 18. Sur les barricades, vous savez, ils avaient 18, 20, 25.
Après. Parfois davantage.
Parfois davantage. Parfois davantage. Plus tard, alors.
Et parfois beaucoup moins aussi. Parfois beaucoup moins. C'est là où les parents peuvent reprendre leur rôle. Mais je crois, vous savez, moi, je ne crois pas à l'autorité des parents à partir d'un certain âge. C'est des choses qui n'existent pas, n'est-ce pas ? C'est des choses de société tout à fait dépassées. Je ne crois pas non plus beaucoup à ce qu'on appelle la valeur de l'exemple. Ce sont des mots creux et des formules toutes faites. Ça n'a pas grand sens. Je crois par contre à une certaine communication et qualité de communication entre parents et enfants qui peut faire que, quels que soient les âges, on retrouve pas forcément des sentiments communs, mais que les enfants admettent de prendre en considération, au titre d'une sorte d'héritage moral, des réactions de leurs parents, qui ne sont pas forcément absurdes. Mais pour maintenir ce climat, il faut qu'il y ait un certain type de relation entre parents et enfants. Et puisque vous citez la phrase de Madame de Gaulle, dont je répète que je ne sais pas si elle l'a prononcée, je pense que c'est cela qu'elle veut dire, et en cela, je la trouve tout à fait remarquable.
Que font donc les parents ? Alors, il y avait les mots du général, il y a les phrases de Madame de Gaulle, il y a aussi celles... Je ne sais pas si vous qui en parliez, celle qu'elle aurait prononcée après l'attentat du petit Clamart.
Non, je l'ai entendu dire, mais je ne...
L'histoire des poulets, vous savez, elle avait acheté des poulets pour une réception qui devait avoir lieu quelque part. Et
Chez elle, je crois,
oui. Et le général lui dit, vous avez été parfaite, Yvonne, parce que vraiment, elle avait été très courageuse. Elle a répondu, elle s'est inquiétée, pourvu que les poulets n'aient rien eu. Je crois que les agents, enfin les policiers, ont pensé qu'elle s'était occupée d'eux. Vous pensez que c'est vrai ? Parce que c'est très joli.
Je crois qu'elle avait pensé à ces poulets qui étaient dans le coffre de la voiture, qui étaient transpercés de balles, non ?
Oui, c'est cela. Alors, il y a ce côté aussi éminence grise, et vous avez été comme...
Oh, je n'aime pas du tout le terme. Je n'aime pas
du tout le terme. Vous avez été aussi...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, une éminence grise ?
C'est un homme qui est conseiller proche de quelqu'un...
Oui, mais éminence grise, ça a une connotation fâcheuse, je trouve.
Ce sont les gens qui gouvernent sans qu'on les voie. Enfin, écoutez, il y en a eu deux auprès de Jacques Chirac, qui étaient sans doute vos amis, puisqu'ils étaient auprès de Georges Pompidou, et que l'on connaît bien. On les appelait éminence grise. Ils devaient avoir d'ailleurs une position et une qualité particulière. Je veux parler de Marie-France Garraud et de Pierre Juillet.
Oui, mais moi, je ne me considère pas du tout comme ayant été une éminence grise.
Vous refusez le terme, là.
Oui, tout à fait. Je trouve qu'il est... Ça a quelque chose d'un peu subreptiste, d'un peu secret, et j'espère que ça ne me ressemble pas. Mais je ne prétends pas d'ailleurs que ce terme soit bien appliqué à d'autres. Je parle pour moi.
Mais il y a quand même ceux qui gouvernent, qui font la loi et qui ne se montrent pas. Ils existent, ceux-là. Vous les avez rencontrés, vous les avez vus. Alors sont-ils nécessaires ?
Écoutez, mais je crois alors que c'est ça l'erreur, si vous me permettez de le dire. Je crois qu'il n'y a pas de gens qui gouvernent subrepticement et qui font la loi, pour reprendre votre terme, dans le secret. Je crois que nous sommes dans un système dans lequel ce sont les hommes publics
qui prennent toutes les responsabilités.
Qui prennent les responsabilités, alors qu'ils soient, qu'ils reçoivent des conseils ou des avis, bien entendu. Comment pourraient-ils faire autrement, d'ailleurs ? Personne n'est omniscient. Et c'est même très nécessaire pour eux. Parce que le risque du pouvoir, et surtout du pouvoir suprême, c'est d'abord la répétition. On peut se répéter trop soi-même, et puis c'est l'isolement. Et avoir autour de soi des gens qui amènent des idées ou des hommes nouveaux, qui organisent un peu le renouvellement des thèmes de réflexion, c'est une chose très importante. Mais nous sommes dans un système, grâce au ciel, dans lequel ce sont les hommes publics qui prennent les responsabilités. Alors...
Il y a quand même l'influence.
Oui, c'est une chose qui existe.
La répétition, vous savez, l'amalgame, parfois.
Bien entendu, mais écoutez, je pense que lorsqu'on choisit quelqu'un comme étant son conseiller, ça veut dire qu'on a une certaine considération pour lui, et puis le jour où on estime qu'il vous donne de mauvais conseils, on s'en sépare, et puis c'est aussi simple que cela. Ça veut dire pour autant que l'on s'en remet à lui de tout. Le général de Gaulle a eu lui aussi des conseillers, Georges Pompidou en a eu, Monsieur Giscard d'Estaing en a à son tour, c'est tout à fait normal et légitime.
Je dois dire, Édouard Balladur, oui.
Je ne comprends pas très bien cette campagne sur le thème des conseillers. Je trouve que c'est une fausse campagne. En tout cas, je parle pour ceux dont j'ai été le témoin, c'est-à-dire pour Georges Pompidou. Il est indispensable d'être entouré de gens qui vous donnent conseil et avis.
On leur donne trop d'importance.
Oui, il me semble.
Et on les mêle à trop de crimes.
Oui, il me semble aussi.
Un crime, entre guillemets.
Crime, oui, c'est un grand mot. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités, n'est-ce pas? C'est aux hommes politiques à choisir ceux qui les conseillent, et s'ils n'en sont pas satisfaits, à s'en défaire, et puis voilà.
Vous plongerez de nouveau dans une aventure comme celle-là un jour? Vous serez près d'un autre homme politique? Ou bien c'est fini?
Je ne crois pas, non.
Parce que vous aviez choisi votre homme et...
Non, c'est lui qui m'avait choisi. Ça se fait par le hasard,
d'ailleurs. On se choisit, oui, accepté.
Bien sûr, bien entendu.
Si demain, on vous demande, venez.
Je crois pas, non.
Non. Je crois que vous avez été très adroit dans ce livre, L'Arbre de mai, Édouard Balladur. J'ai adroit, non. D'abord, vous ne citez pas de nom lorsqu'il ne faut pas en citer. Vous dites ce qu'il y a à dire. Et vous faites la relation, jour par jour, des événements de mai. Mais lorsque je dis que vous avez été adroit, je veux dire que vous n'êtes pas ennuyeux. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire là que vous n'avez pas dit que vous vous êtes caché, vous avez été discret. Vous l'êtes discret, mais vous l'êtes par nature. Parce que vous faites bien respirer quand même les événements. C'est-à-dire, on sait où on est. Lorsque, par exemple, on est à Grenelle, on sait vraiment qu'on est à Grenelle et on sent les gens qui sont véritablement à côté et qui sont prêts à créer une forme de climat. Par exemple, à un certain moment, vous êtes tous là à Grenelle, puis la porte n'est pas fermée. On dit, il faudrait, le président Pompidou dit, fermer cette porte. Et personne ne se lève pour fermer la porte. Et c'est le directeur général, je crois, qui se lève pour fermer la porte. Et il répète, maintenant, ce sont les directeurs généraux qui ferment les portes, ce qui n'est pas plus mauvais, d'ailleurs. Et puis, il vous dit à l'oreille, et ça c'est encore plus précis, il vous le dit à vous, Édouard Balladur, faites vérifier que les clés ne sont pas sur les serrures, car on pourrait nous enfermer. C'était à ce point-là.
Oui, c'était
vous auriez pu être prisonnier.
Je ne sais pas, mais c'était pas rue de Grenelle, c'était rue Audineau, deux jours après.
Ah, ou peut-être, oui, peut-être.
Rue Audineau, deux jours après. Et c'était vraiment à un moment où, la décomposition.
Oui.
De toute autorité avait atteint son point quasi extrême, n'est-ce pas? Et effectivement, il y avait dans les couloirs beaucoup de gens qui ne se gênaient pas pour exprimer à haute voix des appréciations souvent peu agréables. Et la réunion du Premier ministre et des syndicats risquait de se dérouler quasi sur la place publique, n'est-ce pas? Ce qui n'était quand même pas une bonne formule. Et nous étions venus, lui et moi, seuls. Et... Oui, il m'a demandé de faire vérifier que les clés n'étaient pas restées sur les portes.
Vous avez vérifié ?
Non, j'ai demandé à quelqu'un de le faire. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de clés sur la porte. Ça ne voulait pas dire qu'elle n'était pas dans les poches de quelqu'un. Mais enfin, vous savez, tant pis, nous y étions, il fallait y rester.
Enfin, vous ne seriez pas éloigné de dire ce qu'écrivait Maurice Clavel, mai 68, était spirituellement magnifique. Je crois que vous pourriez le dire si vous n'étiez pas tenu par la grâce ou le malheur d'État.
Ah, pas du tout, pas du tout. Non, je ne dirais pas ça du tout.
Non ?
Pas du tout. Parce que
spirituellement, mais
spirituellement, j'ai compris. Hein. Parce que, écoutez, alors là, ça m'ennuie de dire ça alors que Maurice Clavel n'est plus là, n'est-ce pas, et d'exprimer avec lui un désaccord vraiment très net. Autant j'ai trouvé que tous ces attitudes et ces slogans de mai reflétaient peut-être quelque chose de profond et de vrai, autant j'ai trouvé que la formule spirituellement magnifique était inexacte, car il y avait aussi dans les attitudes du mois de mai. Je dirais un appétit de revendication matérielle et matérialiste qui me paraît carrément incompatible avec la valeur spirituelle. Alors, je n'aurais pas dit ça du tout.
Alors,
au contraire, c'est une des choses que je n'aurais pas dit.
Bon, d'accord, mais je voulais le savoir. Gérald de Gaulle est parti. Il est parti, il a surpris tout le monde, c'était inattendu. Et quelqu'un a dit, c'est la fuite à Varennes. Vous n'êtes pas qui l'a dit.
Non.
C'est Chalandon qui l'a dit, non ?
Ah non, je...
non,
non, non, enfin, ah non, non, non.
Je vais avoir une mauvaise information.
Ah, sûrement.
Il y a bien d'autres sujets, il y a bien d'autres aventures dans les pages de ce livre, mais il y a également toute une vie d'un homme qui commence, en fait. Vous avez quel âge ?
50 ans.
À quel âge commence-t-on une vie ?
Je crois qu'on la recommence, vous savez, assez fréquemment. Je ne sais pas à quel âge on commence une vie en naissant, sans doute.
Vous êtes préoccupé par les événements d'aujourd'hui ? ce qui se passe en Iran.
Ah, c'est effectivement préoccupant.
Vous avez peur, par exemple, à l'heure actuelle, à 17h58?
Ben non, je ne sais pas quelles sont les dernières nouvelles. J'ai pas tendance à avoir peur, de façon générale. Vous savez, je n'ai pas suffisamment d'imagination pour être très ébranlé tout de suite. Comme ça, il me faut le temps de la réflexion.
J'aurais aimé parler avec vous également de la peine de mort.
Ah bon? Ben, j'y suis très hostile. Voulez-vous que je vous dise pourquoi? J'y suis hostile parce que je crois qu'elle n'a pas de valeur préventive, comme on le dit, parce que finalement sa seule justification c'est la punition, et la punition par la société qui prend le droit d'enlever la vie à un individu. Et je considère dans ces conditions qu'elle ne résout en rien les problèmes de notre société, et je pense qu'il serait grand temps de la supprimer.
Merci Édouard Balladur. Je rappelle le titre de votre témoignage qui paraît à l'atelier Marcel Julien, L'arbre de mai, chronique alternée. Cela veut dire qu'il y a déjà un climat, que ce n'est pas seulement une relation des faits. Merci Édouard Balladur.